Benjamin Boyce retournait aux études pour apprendre comment réaliser son rêve d'écrire un roman. Malgré lui, il a plutôt suivi un stage intensif de militantisme étudiant, dont il décortique maintenant patiemment la logique sur sa chaîne YouTube. La crise de 2017 au Evergreen State College dans l'État de Washington est le thème de notre discussion d'aujourd'hui. Vous écoutez Après coup. Je suis assez religieusement un YouTuber américain qui s'appelle Benjamin Boyce. J'ai commencé à le suivre, je ne sais pas comment je suis tombée sur lui, mais c'était en lien avec tous les événements qui ont eu lieu au Evergreen State College, dont on avait parlé déjà quand on parlait des Oaks Papers. Et de Brett Weinstein. On s'était adonné à parler de lui, Brett Weinstein. Puis de suivre ce YouTuber-là, ça m'a donné une ouverture sur tout un univers qui existe dans le merveilleux monde de l'Internet par rapport à la woke culture, entre autres. C'est des gens de gauche qui se regroupent ensemble pour parler des critiques qu'ils adressent à cette culture-là qui a l'air d'avoir pris d'assaut beaucoup d'universités américaines. Puis
est-ce que cette culture-là se définirait aussi comme de gauche?
Ben oui, c'est ce qu'on appelle ici une certaine gauche quand on parle de... Elle se veut la gauche.
Et donc pas nécessairement la gauche radicale de leur point de vue. Je pense pas qu'ils se disent radical autant qu'ils se disent comme la vraie gauche. Hein?
Je pense.
Je généralise, là, mais...
Ouais, okay. Je pense. Ce qui s'est passé, en fait, pour résumer rapidement, c'est que ce gars-là, Benjamin Boyce, c'était quelqu'un qui travaillait dans le domaine de la petite enfance, puis qui avait un rêve qui était celui d'écrire un livre un jour dans sa vie. Ça fait que pour ce faire, il a décidé de retourner sur le tard à l'université, tu sais, je pense au début de la trentaine, pour apprendre comment écrire des histoires, pour apprendre à écrire. Donc, il s'est retrouvé dans un département de littérature, probablement. Il est arrivé là au moment où il y a eu la grosse crise à cette université-là, qui a des ramifications énormes. Et il a capté des images, il en a capté beaucoup, et il a ça dans ses propres archives. À partir de là, en sortant de l'université, il a commencé à raconter l'histoire des événements. Donc, ce qui est arrivé, c'est que, juste rapidement, c'est qu'il y a une culture antiraciste radicale qui a été alimentée par certains professeurs de l'université et qui a fini par exploser sur le campus en une guerre ouverte entre des groupes d'étudiants radicaux et certains professeurs et l'administration de l'université contre d'autres professeurs. Ça a fini par le renvoi de Brett Weinstein, de sa femme, qui était aussi prof de biologie. Ça a fini par des trucs, des étudiants qui se promenaient avec des battes de baseball sur l'université, des gens qui avaient peur à leur vie, des menaces, des, tu sais. L'université a été prise d'assaut. On a demandé aux policiers, le directeur du collège, le président du collège a demandé aux policiers du campus, parce qu'ils ont leur propre corps de police, de ne pas intervenir. Il y a des gens qui ont eu très peur. En tout cas, c'était une rébellion un peu désorganisée, mais orchestrée, ou en fait portée par des étudiants pour dénoncer le racisme, dénoncer le sentiment qu'ils étaient continuellement traqués, qu'ils ne se sentaient pas en sécurité à l'université, que tu sais. Mais ça, cette université-là, c'est une université qui est très progressiste. C'est une université communautaire. Les profs qui ont été finalement remerciés ou à qui on a demandé de donner leur démission à la fin, c'est des profs progressiste, Brett Weinstein, oui. C'est un Bernie Sanders guy,
oui.
Tu sais.
C'est pas la grande droite radicale. Et...
Du tout, oui. Du tout. Puis ça, on met ça dans, comme dans l'après-coup, là, on met ça dans le sillage de, des tensions qui sont sans cesse montantes aux États-Unis depuis l'élection à la présidence de Donald Trump, qui est un choc collectif pour les gens du côté plus démocrate, qui sont mis à voir du racisme, voir comme une agression potentielle à tous les détours. Puis donc, l'histoire, rapidement, c'est qu'il y a eu une journée d'absence. En fait, je vais juste répéter vite, vite l'histoire. Il y a une journée d'absence qui, historiquement, traditionnellement, dans l'université, est organisée annuellement pour, c'est-à-dire, durant laquelle les étudiants noirs se retirent, ouais, de l'université pour montrer l'importance de leur présence.
Ouais.
T'sais? C'est comme une commémoration de...
Annuel, ouais.
C'est ça. Et cette année-là, c'est en 2007, en 2017, cette année-là, le comité organisateur a voulu inverser les choses et demander à tous les Blancs de l'université...
C'était le catalyseur de l'affaire, hein? De partir,
oui.
De rester chez eux.
Oui, ouais. Cette journée-là. Et là, Brett Weinstein a... Bien, je pense qu'il y avait d'autres choses qui ont mené à ça avant, mais... par rapport à cette décision-là, a exprimé son désaccord pour des raisons rationnelles, des raisons, ouais, pragmatiques. Il n'était pas d'accord qu'un groupe de gens dans une université demande à un autre groupe de gens. C'était contraire à l'esprit initial.
Mm-hmm.
Donc, il n'était pas d'accord qu'un groupe de gens demande à un autre groupe de gens de s'absenter. Que là, ça instaurait une logique qui était complètement différente. Puis, il voulait... Bon.
Il a refusé.
Il a refusé de participer, il a exprimé son désaccord, il était dans un esprit de discussion, lui. Jusqu'au moment où, là, ce courriel-là est parti, a été diffusé, a été partagé avec des étudiants sous le couvert de « Brett Weinstein est un raciste ».« Brett Weinstein est contre vous
». C'est un détail, mais... Puis vraiment, c'est pas très important, mais pareil, parce que des fois, on essaie de voir qu'est-ce qui s'est passé, où ça a glissé, qui a fait quelle erreur, puis tu vois, moi, souvent, je reviens là-dessus, même, puis c'est... Je comprends que ça peut être ennuyeux parce que je cherche à trouver parfois dans la personne qui est souvent de toute évidence la victime, qu'est-ce qu'il y avait à faire là-dedans. Puis c'est pas pour dire que c'est pas de sa faute, mais bon, je m'excuse
oui,
pas.
Oui, oui.
Mais je m'excuse. Mais est-ce qu'il a-tu fait une erreur en envoyant cette réponse-là à genre 400 personnes ou il a envoyé très ciblé à quelques personnes qui, eux, l'ont redistribué?
Oui, c'est ça qui est arrivé. C'est dans le corps professoral, la discussion se déroulait okay. Au niveau du corps professoral.
J'étais dans l'idée qu'il avait envoyé ça at large.
Non.
Puis dans ce sens-là, tu sais, c'est un peu tiré dans le pied.
C'est pour ça que c'est génial. C'est pour ça que j'aime beaucoup ça, moi, écouter Benjamin Boyce. Là, c'est comme un gars vraiment cool parce que lui, il a tout archivé, puis c'est après avoir terminé ses études que là, il a commencé à reconstruire l'histoire, puis que là, il s'est retrouvé dans toute une communauté de gens qui questionnent précisément ça, ce qui est en train, ouais, de se passer dans les campus américains et at large dans la société américaine, avec cette logique-là, là,
ouais,
qui est soutenue par cette logique-là. Donc, le détail de la suite des événements, il le raconte très minutieusement sur une vingtaine d'épisodes. Ouais. Ça dure très, très, très longtemps. C'est un documentaire qu'il veut monter, que c'est le Complete Evergreen Story.
Ouais.
Puis donc, il repasse sans arrêt les mêmes clips qui se situent historiquement. Ce qu'on comprend de son analyse, c'est que il y a eu une discussion par courriel entre des profs par rapport à cette question-là, puis des profs embarquaient. Lui a exprimé son désaccord et les motifs de son désaccord. Et une prof qui s'appelle Naïma Lowe, qui a eu comme un gros rôle à jouer dans l'excitation des étudiants et la catastrophisation
de la situation,
a partagé des parties du courriel avec des étudiants de son cours de cinéma ou de documentaire. Elle enseignait le cinéma expérimental, quelque chose comme ça, documentaire expérimental. Des parties, donc, elle a partagé des parties de ce courriel-là avec comme préambule l'idée que c'était la preuve que ce prof-là était raciste et qu'il y avait des racistes parmi nous.
Donc, il y a un prof qui, en fait, on peut penser qu'il avait déjà son idée et qui a orienté la discussion pas mal. De ce qu'on comprend de son documentaire, là, elle n'est pas arrivée d'une façon neutre. C'était assez polarisé, son truc.
Oui. C'est polarisé puis comme un peu effrayant même. C'est-à-dire qu'elle fait des crises à Naïm Malo, celle qui a distribué puis qui a encouragé les étudiants à voir les choses en termes d'oppression raciale, etc. T'sais.
Surtout que c'est une accusation, hein, on dit peut-être ça va de soi, mais quand même, c'est une accusation terrible à faire à quelqu'un, t'sais, de dire d'un prof, regardez avec son courriel, c'est pas juste un courriel qui est maladroit, ou qu'il y a une partie de la situation qui a été scotomisée, dont il n'a pas pris compte, il faudrait lui rappeler, il faudrait en discuter. Tu sais, c'est un moment donné, c'est brisé, voici un raciste.
Regardez ce qu'on doit endurer quotidiennement depuis des générations.
Et là, une fois que l'accusé est accusé, c'est toujours ça, il se débat, il y a tant bien que mal d'essayer de dire non, mais c'est pas ça que j'ai dit, vous avez pas compris. Puis là, les gens débarquent en disant, quasiment, on le voit dans la vidéo, ils débarquent aux portes de son bureau avec des... en scandant raciste, là.
T'sais. C'est ça. Puis c'est ça le truc qui est aussi fascinant, c'est ça, ce que lui a vu, parce que ce qu'il raconte, lui, de son côté, Brett Weinstein, c'est qu'il a étudié un peu toutes ces questions-là. Et ce qu'il voit, c'est des choses qu'on a déjà vues dans l'histoire.
Oui.
Tu sais,
fait que faut c'est peut-être...
C'est ça, mais il faut peut-être aussi souligner en passant que c'est quelqu'un qui est d'origine juive, hein, que dans ses ancêtres, il n'y a pas si longtemps, de une génération en haut de ses parents, je veux dire, ils ont connu un genre de folie, qu'on voit, dont ils ont fait les frais, tu sais?
C'est ça.
Par des humains. Il dit, fait que les gens arrivent à sa porte en scandant des slogans, tu sais, comme quoi il faut qu'il parte, il faut qu'on le renvoie, il faut qu'il, tu sais, comme... Et il essaye d'engager la discussion avec le groupe de gens qui est là, et ça finit par dégénérer. Il y a quelqu'un qui appelle la police parce qu'il a peur à la sécurité du Brett Weinstein en question, parce que les portes sont bloquées. Lui est incapable d'entrer en communication avec les gens autour de lui. Il cherche leur regard pour parler. Puis ils lui répondent tous avec des slogans. Aussitôt qu'il commence à parler, les slogans repartent.
Puis, sauf erreur, parce que tu as plus étudié ça que moi, tu sais, il y a des gens qui sont... Puis c'est troublant, mais il y a des gens qu'on voit, puis on le voit dernièrement au Québec, qui non seulement parfois vont dire « un tel doit être censuré », mais qui sont très rapides à se réjouir de la censure de quelqu'un.
Oui.
Ils sont contents.
Oui.
Puis c'est quelque chose d'être content que quelqu'un soit censuré.
Oui.
À mon sens, il faut vraiment que tu sois sûr que ce qu'il disait, ça valait la peine. Tu sais, que c'était pas juste une idée qui avait tort. Et...
une mauvaise blague, un commentaire maladroit.
Exact. Ou... mais dans son cas, à lui, parce que ce qu'on entend souvent pour ceux qui sont rapides à être pro-censure, tu sais, ils vont dire « ouais, mais c'est un discours qui propage la haine ». Puis on peut pas avoir de ça. À mon sens, il y avait rien de haineux dans son truc. C'était même assez... Tu sais, il disait, je trouve pas qu'on devrait changer la tradition annuelle dans ce sens-là, parce que ça trahit la pensée, la tradition. Mais tu sais, il y avait rien de... point, et donc vous... haineux, il n'y avait rien de ça. Hein.
C'est pour ça que
tu regardes la vidéo, tu as l'impression que vraiment, il se retrouve piégé rapidement pour pas grand-chose.
C'est ça.
En termes de, tu sais, est-ce que c'était haineux? Non. Est-ce que c'était sectaire? Ou il amenait aux gens à les obliger à croire en un truc? C'était vraiment quelqu'un qui s'opposait à quelque chose avec des opinions qui était prêt à discuter. On peut penser, mais en toute bonne foi. Là.
Oui. Oui, c'est quelqu'un de raisonnable, quelqu'un, tu sais, qu'on pourrait dire qu'il a le cœur à la bonne place, qui est comme un militant pro-cause, cause sociale depuis toujours, tu sais, quelqu'un qui enseigne dans une université communautaire, la plus progressiste parce que c'est comme...
C'est ses valeurs. Hein.
C'est ça, ça lui ressemble parce qu'il est bien là-dedans, parce que, tu sais, il veut accompagner des étudiants pour les aider, tu sais, à circuler dans l'échelle sociale, tu sais, partir de comme d'un état de difficultés socio-économiques, puis comme, tu sais, se construire un savoir dans le respect de leur style à chacun et tout ça, tu sais, c'est comme, tu sais, qu'ils se retrouvent tout d'un coup mis au banc des accusés, pas par un message qui aurait été entendu directement par ses accusateurs directs, mais par le message comme il a été médié par quelqu'un d'autre qui en a transformé le sens et l'intention et qui a moussé l'énervement puis l'énergie de la jeunesse là, dans ses cours pour encourager les étudiants à se retourner contre lui. Tu sais, comme c'est un discours filtré que les étudiants ont entendu. Puis le sentiment d'insécurité, de victimisation, tout ça, a été comme...
Mais l'appât aussi d'avoir de l'influence.
Aussi.
Tu peux penser que tu protestes un peu. Il y a plein d'autorités qui commencent à flipper, à faire des flips pour être d'accord avec toi, puis t'accommoder, puis là, ben, plus ça va, plus t'en demandes, puis un momentum, puis c'est l'avantage de ça, hein, c'est que comparativement à, comme on disait tantôt, un article dans une revue qui, 2 ans après, en résume les grands traits, en skippant plein de choses, là, t'as lui qui résume ça dans le documentaire, étape par étape,
oui.
courriel par courriel,
oui.
réponse par réponse.
Oui, et... dans la chronologie de... puis qui te met en contexte aussi, qu'est-ce qui se passe un petit peu à l'extérieur, comment est-ce qu'on en parle, dans quel journal on en parle, puis comment,
façon,
de quelle façon, qui a dit quoi à qui, quel courriel est arrivé à qui, comment, puis finalement, qui finit par être fidé aussi dans la construction de ce documentaire-là, qui dure très très longtemps, qui finit par être fidé par des gens qui sont des étudiants dans le collège, puis qui se sont sentis pris en otage, puis qui n'avaient aucune autre place pour s'exprimer, puis qui n'osaient même plus s'exprimer à l'université parce que tout ce qu'ils pouvaient dire ou faire ou risquer était potentiellement retenu contre eux, puis leur revenait avec une super grande violence.
Oui, puis tu vois la logique se déployer rapidement de « tu es avec nous ou contre nous ». Il n'y a pas beaucoup de nuances, puis il faut que tu choisisses vite. Fait que là, ça crée aussi plein de monde qui sont un peu figés à dire, ben, je veux pas risquer plein de choses en étant contre, je sais même pas exactement ce qui se passe, fait que je suis comme doucement pour, mais caché, pas trop m'impliquer, mais...
C'est ça.
Fait que ça crée tout un mouvement aussi.
Oui, c'est ça. Puis en fait, ce qui est raconté aussi dans cette histoire-là, c'est comment l'administration... non seulement moussé, a encouragé ça en mettant aucune limite, au contraire, en donnant des postes, par exemple, des rôles importants aux leaders de ces mouvements de contestation-là. Donc, non seulement a encouragé le chaos à l'intérieur de l'université, mais en a profité pour élargir sa sphère d'influence. Fait que le nombre de postes d'administrateurs dans l'université a énormément augmenté pendant cette période-là. Et les pouvoirs que le président s'est octroyés ont augmenté aussi. C'est quand tu regardes les choses d'un point de vue là, systémique, là, on peut se dire « Ah ouais, OK, ben oui, c'est vrai, le racisme, c'est comme tout le monde est contre. Il faut reconnaître que ça existe et tout ça. » Mais il y a une façon d'aborder cette question-là pragmatiquement là, qui n'aide rien, qui ne règle rien. Puis en fait, pire que ça, t'as des instances qui voient comment ce discours-là fonctionne, qui savent comment alimenter quoi pour en profiter, pour leur intérêt personnel et autre chose. T'sais, le pouvoir réel, il n'est pas dans les mains des étudiants à qui on a donné des postes de pseudo-miliciens ou de leaders. C'est un pouvoir temporaire, c'est des étudiants qui sont là pour le temps de leurs études.
Oui, c'est ça.
T'sais, ceux qui restent,
c'est les administrateurs
en particulier, parce que dans la foulée, il y a eu comme une sorte de grand ménage qui a été fait. Brett Weinstein est parti, sa femme a perdu son emploi. Naïm Malo aussi a perdu son emploi.
Ah
oui?
Pour
vrai? Oui.
Pour?
C'est des ententes qui ont discuté après tout ça, parce que c'est devenu public, c'est devenu national. Puis c'est devenu national, pas n'importe comment. Ça aussi, c'est une autre affaire qui était quand même intéressante, puis qui est intéressante, mais qui fait peur aussi quand tu... C'est que au pire de la crise... Brett Weinstein a eu peur pour sa vie, là. Il se fait avertir par la police, qu'il se fait demander par ceux qui sont responsables de la police, qui est le président, en fait, de l'université, de stand down, de ne pas intervenir. Donc, la policière, elle aussi, elle s'est fait ramasser. La policière étant traumatisée, elle est partie. Il y a des gens réellement traumatisés. En tout cas,
oui, parce qu'en fait, la policière était menacée.
Elle était menacée aussi, oui. Et puis moi, personnellement, je trouve qu'il faut en tirer les enseignements, puis on remercie ce gars-là, Benjamin. Moi, c'est pas pour rien que je suis comme accro à ce qu'il écrit, parce qu'il y a une lecture modérée des choses dans lesquelles il a été impliqué malgré lui, en tant qu'observateur. Puis lui, sa frustration, c'est d'avoir le sentiment que son diplôme a perdu de la valeur à cause de tout ça, puis qu'il n'a pas appris ce qu'il était allé apprendre.
Ouais.
Lui, il voulait apprendre comment écrire son roman qu'il rêvait d'écrire, puis il s'est retrouvé à apprendre plein de choses sur comment il est un oppresseur, puis comment... Ouais. Tu sais, comme toute la théorie critique qu'on enseigne en littérature en particulier. Mais c'est ça, au plus fort de la crise, Brett Weinstein avait peur pour sa vie. Donc, la policière lui dit, bon, ben on a entendu dire que on peut pas intervenir, t'es pas en sécurité, évite d'aller sur le campus. Et donc, lui, il allait enseigner dans un parc... À 12 blocs plus loin, il avait peur d'être vu, tu sais.
Puis c'est lui qui se rendait en vélo à l'école parce qu'il habitait pas loin, t'sais, c'est vraiment le gauchiste typique.
Oui.
Puis il pouvait plus aller en vélo parce qu'il se faisait courir après.
Oui, c'est ça.
Par les étudiants.
C'est ça, puis l'endroit qu'il a trouvé où on était prêt à l'entendre sonner l'alarme, c'est Fox News puis Tucker Carlson.
Ouais. Puis tout ça s'est passé assez vite. À partir du moment où il envoie le courriel, puis il refuse de participer, ça...
Il s'est retrouvé avec une ordre d'étudiants comme dans les deux jours
ouais, c'est ça,
devant
hein,
sa porte.
Ça a vraiment été un retournement de...
Ouais.
Puis d'où l'idée, c'est ça, parce que je pense que c'est ce que tu allais dire aussi, de documenter une histoire comme ça, qui a un début, puis une fin, puis du monde. La perspective aussi, c'est que si ça s'est passé là, ça pourrait se reproduire ailleurs. Il y a des leçons plus larges à tirer de ça que juste, ouais, un tel, puis le courriel, il n'y aurait pas dû. Tu sais, quand tu te mets à censurer du monde, quand tu veux canceller des gens, quand tout ça, c'est toujours en potentiel.
Oui.
Tu sais, les gens qui se sentent pris en otage, qui veulent, là qu'il y a une vague, qui veulent pas être contre puis en payer de leur prix. Tu sais, tu peux penser à plein d'étudiants qui disent, là, moi, il me reste une session. Je sais pas trop qu'est-ce qui arrive avec cette histoire-là, mais je vais-tu sacrifier mes études pour une cause que je comprends pas trop? Tu sais, le prof qui s'arrange, tu sais, moi, je fais mes affaires. Ça fait que là, tout le monde fait ses affaires, sauf ceux qui sont contre lui. Tu sais.
Oui.
Il y a de ça aussi, tu sais.
Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Puis donc, il se trouve personne pour le défendre.
Les profs...
Les profs aussi, ils ont peur.
Ils voient ce qui l'attend, ou dans quel piège il est tombé. Hein?
Puis aucun moyen. Tu sais, t'as un vidéo, entre autres, là. T'as une Naïm Malo, là, qui est capturée. Ça vaut la peine. Je vais le retrouver, celui-là, là, parce que ça vaut la peine de le voir, parce qu'elle a un petit chien. Elle a son petit chien dans ses bras.
Ouais.
Un tout petit chien. Mini. Fait qu'elle a son petit chien dans ses bras. Puis elle est en train d'invectiver en hurlant là, deux professeurs qu'elle traite de raciste, comment elle en a marre du racisme, que tout le monde est raciste, que tu sais. Puis t'as un des profs qui dit, ben est-ce que des excuses, est-ce que c'est trop tard pour que je vous présente mes excuses, tu sais. Puis ça marche pas. Elle continue à l'invectiver, c'est comme, j'ai pas le temps de gérer avec toi, j'ai pas le temps de faire ce travail-là à ta place, tu sais. Je veux dire, soit t'es avec nous, soit on n'a pas besoin de toi ici. Puis pendant que son petit chien, elle hurle, pendant que son petit chien tout long est comme là, dans ses bras, puis que tu fais juste te dire, voyons, madame, tu sais, fais attention à ton petit chien. je vais le mettre, oui, c'est ce parti-là, parce que... Ben oui, mais c'est aussi...
La classe,
c'est, mais c'est, ça montre, tu sais, comme la bulle qui vient de sauter dans sa tête à elle,
ouais.
qui est en train d'engueuler des gens qui ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien dire qui va pacifier les choses. Il y a une sorte de triomphe de... de la revendication là-dedans, c'est-à-dire parce qu'au nom de ce que j'estime
avoir enduré,
avoir subi,
ouais.
et si c'est pas juste moi, c'est toutes les générations qui m'ont précédé, de mes ancêtres à moi, au nom de ça, toi personnellement, j'ai le droit de t'humilier devant tous ces gens, j'en ai assez de toi, j'ai tout d'un coup, j'ai
Une autorité une ascendance.
Que tu ne peux contester d'aucune façon, puis tu ne peux rien faire pour changer ma perception de ce que tu sais, ou pour réparer, ou pour essayer de te montrer de bonne foi par rapport à moi, parce que même ton effort de te montrer de bonne foi est une insulte.
Oui, c'est ça, je sais, puis moi, ça m'avait interpellé aussi, puis ça m'avait interpellé, tu sais, récemment, c'était une autre histoire, ça, c'est pas celle-là, mais tu sais, je t'avais raconté quand. Il y avait quelqu'un sur Facebook que je connais, là, qui était une amie. Je n'ai pas parlé depuis, mais j'ai de la misère à ce qu'ils sont encore mon ami. Qui, à un moment donné, par rapport... Je me souviens même pas le sujet, mais c'était un truc comme ça, tu sais. Elle avait dit un statement de l'ordre de... Avec ce qui se passe en ce moment... Je pense que c'était avec l'affaire de Floyd aux États-Unis. Tu sais, elle avait dit, ceux qui sont pas d'accord, ceux qui ont une objection, ceux qui veulent nuancer, ceux qui ont quoi que ce soit d'autre à dire... autrement qu'une parfaite condamnation, taisez-vous. Vous n'avez pas le droit de parler.
Oui. Oui.
Parce que, tu sais, c'est pas le temps, c'est pas le moment. Puis je comprends son point de vue qu'à un moment donné, tu peux dire, tu peux pas toujours nuancer, t'objecter, puis il faut que tu aies une position claire, puis il y a des choses. Je comprends tout ça. Mais il reste l'idée de, c'est toujours ça dans la censure, tu sais, qui décide, tu sais?
Mm-hmm.
Qui tu es, toi, pour là statuer que ceux qui voudraient parler doivent se taire?
De quelle autorité?
Ben, c'est ça.
De quelle autorité là, tu te réclames, c'est toi? T'es de la famille de George Floyd?
C'est ça. C'est toujours ça l'affaire quand on dit « Ouais, mais là, un tel, il faut le censurer, ça n'a pas de sens, c'est un fou, c'est un complotiste. » OK, mais qui décide? Puis ça peut pas être un truc qui s'emballe en deux jours sur une rumeur, tu sais, pour quand même qu'on puisse... avant de censurer quelqu'un, pour quand même qu'on puisse dire c'est qu'est-ce qu'il a dit, pour qu'on ait des textes, ou que, faut qu'il y ait quelque chose, faut pas juste...
Puis c'est quoi la conséquence de le laisser parler? C'est-à-dire, en quoi c'est si grave? T'sais, si on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, en quoi c'est si grave ou dangereux de le laisser parler?
Ben aussi, tu sais.
Qu'est-ce que ça a comme...
Parce que,
je dis pas que ça en a pas, je dis juste, on peut-tu regarder?
Puis c'est vrai qu'un des arguments, c'est de dire, mais souvent ça, c'est un discours haineux, ça propage la haine... C'est pour qui? Parce que souvent, les gens qui disent ça sont parfois aussi très haineux envers d'autres groupes, mais pour eux, c'est mérité. Mais encore là, donc, qui décide? Trump, dont on a déjà parlé,
il n'y a personne... dont on n'a pas fini de parler,
il n'y a personne au Québec en ce moment, au Québec en particulier, là, qui a une place spéciale par rapport à Trump. Là. Trump est beaucoup plus haï au Québec qu'en Floride. Tu parles à des gens qui habitent en Floride, il ne se passe rien. Hein. Au Québec, tout le monde... lui, le Journal de Montréal, tous les commentaires, un après l'autre, sont pour contre Trump. Mais bref, il n'y a personne qui, au Québec, dirait « ben j'ai lu un tel qui a un discours très critique et haineux envers Trump, il faut le censurer. » Tout le monde dirait « ben non, mais ça, c'est correct, parce que ça, on a le droit. » Mais non, encore, qui décide? C'est toujours ça, tu sais. Qui décide?
Mais en même temps, tu sais, t'as aussi, c'est comme le truc, c'est ça. C'est que qui décide... Et là, dans ce brouhaha-là, on crée de la confusion. Par exemple, t'as un groupe qui est intéressant, on va peut-être être intéressé de regarder éventuellement, je sais pas trop, là, le QAnon, le fameux QAnon.
Oui.
C'est quoi les ramifications? Comment c'est parti? C'est qui est derrière ça?
Ouais.
C'est quoi
Qu'est-ce
l'affaire?
Qu'est-ce qu'ils disent?
C'est quoi? Je suis pas sûre que je suis curieuse de savoir le détail de leur affaire, mais comment ça s'est passé?
Moi, je suis sûre, par contre, que ceux qui sont souvent contre eux savent pas trop ce qu'il y en est.
Oui, c'est ça.
Parce que ça reste assez, des fois, c'est quoi cette histoire-là? Personne ne le sait vraiment. Là.
C'est ça. Personne ne le sait vraiment d'un côté, mais de l'autre côté, ça se répand comme la misère sur le pauvre monde. T'sais, c'est une traînée de poudre. Fait que là, t'as des gens qui embarquent dans une histoire de...
Ouais.
est-ce qu'ils embarquent là-dedans comme on embarque dans une parodie, où il y a des gens qui croient vraiment dur comme fer, des tu sais...
C'est quoi les fondements de cette affaire-là?
Vaguement.
Oui, ce que j'ai compris récemment, mais j'ai entendu quelqu'un qui le résumait, peut-être que c'est un mauvais résumé, non, mais c'est que ça aurait été l'idée, parce que ça revient à Trump, Trump a affaire là-dedans, qu'il y aurait comme des gens qui seraient regroupés aux États-Unis dans une espèce de deep state, là, des gens dans le gouvernement, mais tu sais, un cercle fermé, qui aurait vu qu'il y avait une couche de criminalisation, de pédophilie.
Et Q, c'est quelqu'un de l'intérieur.
Ouais. Qui aurait nommé, en fait, qui aurait désigné Trump pour faire le ménage là-dedans. Quelque chose de même.
C'est qu'il va les sauver. Trump, c'est lui qui va sauver les enfants qui sont pris dans un réseau de pédophiles, mangeurs d'enfants, sataniques.
Oui, il y a du
satanisme. C'est comme quand on parlait des francs-maçons autrefois, comme on parlait des heavy metal autrefois. Tu sais, comme il y a une logique de Hillary Clinton, on la voit manger un enfant ou quasiment. Tu sais, c'est comme de tu sais, c'est comme limite délirant, OK? C'est comme bande dessinée style inexpliquée. Tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles la revue Inexpliquée.
Oui, okay? Oui.
Inexpliqué style, tu sais, parce ouais. que là, tu vas rajouter à ça que Lizard People, puis tu sais, comme des... Bon, mais juste, c'est que on soupçonne, comme on cherche, c'est qui le gars, tu sais, mais il y a le gars de 4chan, il y a une entreprise lucrative, hein, 4chan, c'était lucratif, 4chan a été fermé, il est passé à 8chan, c'est 8chan, puis après c'était 4chan. En tout cas, tu sais, il y a un truc lucratif là-dedans.
Okay.
Tu sais. Mais peu importe. Ils partent des trucs qui ont des conséquences réelles, tu sais, entre autres sur la pandémie, puis le sens du masque, puis qu'est-ce qu'ils veulent faire pour nous contrôler, les gens du deep state, etc.
Ouais.
Et je parlais de ça parce que Trump joue avec ça, parce qu'il espère en profiter, tu sais. Mm-hmm. C'est ça son truc à lui. Lui... C'est pas quelqu'un qui a une position de rien, là. On pourra en reparler, mais tu sais...
Oui, on peut penser qu'il voit vite dans le discours qu'est-ce qui peut me profiter.
Qu'est-ce qui va me profiter? Ouais. Fait que bon, ils sont contre la pédophilie qu'il a dit hier au Town Hall, fait que c'est pour ça, mais je connais rien. Je n'ai jamais entendu parler. Sauf qu'ils ont une iconographie qu'ils utilisent. The best is yet to come. Ça vient d'eux. Tu sais, il y a des... Bon. Mais peu importe, c'est que là... Facebook et Twitter et YouTube, ben, j'ai entendu ce matin, ont décidé que là, ça faisait, puis que là, ils allaient faire le ménage là-dedans.
Ouais.
Fait que là, ils bannissent tout ce qui est rapport avec QAnon, tu sais.
Ouais.
Et donc là, Jack, sur Twitter, c'est Jack, c'est le chef de Twitter, là,
ouais.
on lui parle personnellement. On dit, hey, Jack, fais quelque chose. Ouais, Jack, fais quelque chose. Son seul truc, c'est de dire, ben, on a mal fait nos communications par rapport à ça, mais c'est comme ça. Tu sais, la confusion est là. Twitter va bannir tout discours qui n'est pas de gauche. Ça, c'est ce qu'on dit à droite.
Mm-hmm.
Twitter veut nous censurer, nous, les gens. Twitter est anti-Trump. Twitter, tu sais,
ouais.
C'est pas ça du tout. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, ils voient leurs intérêts, puis tu le vois, là, que en laissant circuler certaines choses qui se répandent, ce que tu fais, en fait, c'est que tu favorises la distribution de propagande et que tu contribues à l'élection américaine, en fait. Puis c'est pas ton... Ne rien faire, c'est faire quelque chose,
ouais.
Tu sais?
Ouais.
Ils se sont fait une tête, là. Fait que là, tu dis, OK, mais là... Est-ce que c'est la porte d'entrée à la censure de l'autre bord? Est-ce qu'on va nous demander de l'autre côté de commencer à censurer tous ceux qui voudraient critiquer un petit peu The Day of Absence? Est-ce qu'on va les censurer comme étant des... Puis là, il y a comme une énorme confusion dans l'affaire de la censure. C'est là mon point, c'est là que je voulais en venir.
Oui, mais en plus de la confusion, il y a aussi un moment historique, en fait, qui est notable, parce que, tu sais, dans un temps habituel, dans un temps normal, entre guillemets, si on le prend au Québec même, que quelqu'un dise « moi, j'haïs Charest, je suis contre Manon Massé, j'aime pas telle politique », tu sais, on serait mal placé pour vouloir censurer, parce qu'en fait, il y a plein de partis politiques, il y a plein d'opinions, « j'aime pas Martineau, j'aime pas un tel », tu sais, tu peux détester ou pas aimer ou critiquer qui tu veux, c'est dur, à moins vraiment là, d'avoir un statut particulier, mais c'est pas si facile, en tout cas, de dire « OK, lui, il faut l'annuler parce que c'est toxique ». Mais tu peux dire ça, c'est toxique, ça encourage la haine, mais c'est pas si facile à prendre ça, quelque chose de concret. T'sais. Là, aujourd'hui, c'est un temps spécial parce que tu peux dire « Mais non, là, il y a un vrai impact parce qu'on est en pandémie, il y a des choses qu'il faut faire et qu'il faut suivre, et que si on a un discours... »
Ouais.
Qui met ça en question d'une façon trop prononcée, ben ça peut avoir des effets très rapides sur la santé publique.
Et des décès. Ça peut causer des morts.
C'est ça. Et fait que là, c'est plus juste une vue de l'esprit, c'est pas juste un discours, c'est pas juste des paroles.
Oui.
Moi, je suis pas d'accord, je suis d'accord.
Oui.
Là, c'est comme... Fait que je comprends ça. Le désavantage, c'est que c'est la voie royale vers la censure rapide sous ce prétexte-là, tu sais. Ou là, t'as quelqu'un qui pourrait être légitime, qui met en question quelque chose, puis qui dit hey, « non, mais... à tel endroit, ils ont fait un différent. Ah, regarde, lui, il est dans le mauvais camp. Faut le faire passer. »
Mais là, c'est qu'à ce moment-là, c'est parce que c'est aussi des niveaux de censure. C'est que là, à ce moment-là, ceux qui décident de censurer, c'est des compagnies privées. C'est des propriétaires de compagnies privées. Puis c'est ça qu'on a oublié. YouTube, puis Twitter, puis tout ça appartient à des gens. C'est pas à nous. Ça.
Oui, oui. On
c'est propriété privée.
Ils utilisent notre contenu.
C'est ça.
C'est la
on leur donne.
Oui, oui.
Généreusement.
Oui. Oui, c'est des belles business.
Fait qu'ils ont beau jeu de dire, mais en fait, je fais ce que je veux chez moi. Tu sais, moi, je veux pas de ça chez moi. Fait que, tu sais, c'est comme ça.
Ben ouais.
Tu sais? Bon, fait que là, comme ils sont devenus, eux, les principaux vecteurs de transmission de l'information mondialement, ils sont donc devenus les propriétaires du droit d'accès à la parole.
C'est ça.
Puis on peut comprendre pourquoi Facebook, par exemple, tu sais, malgré tout ce que moi, je tu sais, tout ce qu'on peut penser de lui, on peut comprendre pourquoi...
De Zuckerberg.
Pourquoi... il rechigne, il hésite à se mêler de qu'est-ce qu'on publie sur sa plateforme.
Ben oui.
Tu sais, c'est que là, c'est revenu aussi en dépendre, là, tu sais, d'un bord ou de l'autre.
Ben oui.
T'sais?
Ben oui, effectivement, t'sais? C'est ça. Puis à un moment donné, tu veux pas qu'il y ait la moitié de tes clients qui. Ou le corps qui débarque ou.
C'est ça.
Oui.
Parce que t'as des gens. On en a parlé, mais c'est comme. Je pense qu'on n'a pas fini d'en parler, pour vrai. Tu sais, t'as des gens dont la principale activité soi-disant militante, soi-disant de service public, c'est de fouiller sur Internet pour trouver des gens à dénoncer et à censurer. Ça fait que là, on t'arrive, toi, on débarque dans ta vie réelle parce qu'on a trouvé à partir d'Internet. On a trouvé tes coordonnées, puis on a lancé sur Facebook une campagne contre toi qui encourage les gens à te signaler sur Facebook pour que tu débarques de là, à te signaler sur, tu sais, les diverses plateformes et à appeler les gens à ta job pour te faire perdre ta job parce que tu as eu un commentaire quelconque à une place.
Oui. Puis encore là, c'est le parallèle avec l'affaire de Brett Weinstein, c'est que ça peut être quelque chose maintenant qui se passe en 72 heures. Ça peut être très, très rapide.
Oui.
Tu sais, des fois, tu peux dire, là, telle personne a fait un commentaire, à sa face même, il n'aurait pas dû, ou c'est mal ficelé, ou c'est mal... Mais là, ça part, tu sais.
Ou il n'a même pas fait le commentaire que tu dis qu'il a fait.
Oui, parfois.
Tu peux faire partir l'affaire juste
Mais en fait, c'est
par
ça,
caprice.
Hein. Oui, des fois, c'est pas
parce
important.
Parce que tu l'aimes pas.
Oui, c'est ça.
Tu peux te tordre son idée, puis les gens vont pas nécessairement aller voir le fond de l'histoire, puis qu'est-ce qu'il a vraiment dit.
Ben, d'où l'idée aussi, quand tu as foi, malgré tous ses défauts, tu sais, dans un système judiciaire, où tu peux dire, ben celui qui est accusé va avoir la chance tranquillement de dire, écoutez, il y a erreur en la matière, j'ai pas dit ce qu'on me reproche, regardez ce que j'ai dit. Mais parfois, sur Twitter, les pressions sont telles que... au bout de 72 heures, c'est fini. La personne est jugée. Elle peut juste être sur la défensive à essayer de se débattre que c'est pas vrai. Ou... puis, tu sais, pour connaître des gens qui ont vécu ça, à un moment donné, le seul recours, c'est de dire « je me suis mis en boule dans un coin en espérant que ça passe, tu sais. Puis qu'à un moment donné, les nouvelles passent à d'autres choses, tu sais.
Oui. Ce qui arrive immanquablement.
Ben oui. À un moment donné, c'est fini, c'est une vieille histoire. J'en stand, tu sais.
Sauf que toi, dans l'univers Internet, on peut toujours retrouver que tu as dit telle chose.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire, ça s'en va de l'actualité, mais là, quelqu'un qui te cherche, c'est ça qu'il va trouver, que c'est arrivé, qu'on a dit ça de toi.
Ouais. Puis, on parle des effets au niveau de la société, puis des discours, puis à partir de quel moment on dit qu'un discours est toxique, un discours est haineux, il faut... Puis c'est là que la ligne parfois est mince en dire il faut s'objecter à ce discours, il faut trouver un contre-discours pour montrer comment les fondements de ce qui est dit sont pas justes, sont fausses, sont racistes. Aller même un peu plus loin et dire il faut pas qu'il puisse le dire, il faut l'empêcher de parler, il faut l'empêcher d'avoir des plateformes, là, c'est un autre match. Mais ça, c'est au niveau de la société. Comme clinicien aussi, après ça, il y a qu'est-ce qu'on fait avec des patients? C'est parce qu'on en reçoit, nous autres, des discours de patients qu'on peut dire mais soit c'est du délire, ou c'est pas vrai, ou c'est vraiment une espèce d'échafaudage que cette personne-là s'est montée sur ses représentations de sa famille, ses amis, mais tu sais, on voit son biais, puis c'est pas ça, puis il a pas raison, mais tu sais, comme clinicien, on n'a jamais comme élan, ou en tout cas on peut l'espérer, de dire à la personne, arrête, dites pas ça, pensez pas ça, au contraire. Hein. Puis souvent quand les gens viennent parler, puis là tu le vis plus que moi, ils sont contents d'avoir un endroit où ils peuvent le dire.
Oui.
Puis ils peuvent s'exprimer, même si c'est pas correct, c'est pas beau, c'est pas exactement ce qu'ils pensent. Fait qu'il y a ça aussi, tu vois, où je veux en venir, c'est que tu veux pas non plus vivre dans un monde où, publiquement, personne n'ose rien dire parce que c'est toujours explosif, mais qu'en privé, le monde s'en permette quand ils peuvent enfin trouver des gens à qui ils font confiance. Tu sais, il y a comme trop une espèce de décalage entre les deux, hein.
Tu veux pas arriver là, mais ça se peut d'arriver là. Il y a des sociétés qui sont arrivées là.
Mm-hmm. Oui, exact. Ce sont des enjeux qui, pendant une pandémie, sont exacerbés. Puis moi, je vois du monde en ce moment qui se réjouissent de voir des gens censurés. Puis ils ont l'excuse de dire, hey, écoute, c'est une situation spéciale. Ça peut sauver des vies, le fait qu'ils soient censurés, le fait qu'on leur donne pas la place, ils vont être capables de pas convaincre des gens de poursuivre des règles importantes, tout ça. Fait que je comprends. En même temps, on peut aussi penser que quelqu'un qui se réjouit si vite, mais tu sais, réjouir de voir quelqu'un censuré, dans des temps habituels, il est pas loin d'être content aussi quand il y en a une couple de censurés. Parce que tu sais, tu pourrais être déçu que quelqu'un tient tel discours, vouloir montrer que ça n'a pas ses fondements, vouloir faire en sorte que ce discours-là n'a pas tant de place pour émerger, parce que souvent, ça n'émerge pas de nulle part, tu sais. C'est parce qu'il manque de transparence ailleurs, des fois, qu'il y a des théories du complot, tu sais.
Mm-hmm.
Fait que, tu sais, tu pourrais avoir plein de choses, mais de tout de suite vouloir faire taire le monde, c'est quand même une drôle de réjouissance, là, de dire, il y a quelqu'un qui parlait, qu'on ne donne plus le droit de parler, tu sais.
Mais il y a aussi le c'est lui le méchant, c'est pas moi.
Ouais.
Lui mauvais, moi bon.
Oui. Moi vertueux, lui haineux.
C'est ça.
Oui.
Si moi je peux dénoncer la haine, c'est bien la preuve que moi je suis pas haineuse.
Oui, c'est ça.
Tu sais, je suis tellement pas haineuse que aussitôt qu'il y a de la haine, je me mobilise pour qu'on l'éradique.
Mm-hmm. Oui, puis en plus, c'est encore là, en temps de pandémie, il y a comme une parenthèse parce que ça peut avoir des effets rapides sur la santé publique, mais sinon. De dire d'un discours qui doit être banni parce que c'est religieux ou quasi-religieux, tu sais, c'est une drôle d'affaire, tu sais.
Oui.
Ben, je veux dire, il y en a plein de gens encore religieux, complètement, tu sais. Souvent, on en connaît nos grands-parents, puis du monde qui croient en ce qu'ils croient, puis qui prient, puis qui font... Fait qu'on pourrait pas dire, ben, ils ont pas le droit, c'est religieux leur affaire. C'est juste religieux leur affaire.
Oui, c'est vrai.
Voyons, c'est quoi cette histoire-là?
Oui.
Tu sais, on en connaît des gens, là, puis qui vont à l'église, puis qui sont catholiques, puis tu sais, on en regarde moins qu'avant, mais ça existe, on dirait pas d'eux, c'est religieux.
Non. Qui prient qu'ils sont catholiques, ou qu'ils sont juifs, ou qu'ils sont musulmans.
Ben oui.
On dirait pas d'eux, c'est religieux, il faut l'éradiquer parce que c'est religieux.
Oui, c'est ça.
C'est quasi religieux, même c'est vraiment totalement religieux, fait que non.
ou c'est basé sur des trucs qui sont pas qui sont difficiles à prouver, mais tu sais, effectivement.
Ouais.
Mais si t'avais été Brett Weinstein, avec ce que tu sais qu'il a vécu, là, tu peux-tu t'imaginer que t'aurais fait quelque chose de différent? Hein?
Est-ce que j'aurais exprimé mon désaccord, par exemple? C'est
ouais,
ça que...
je sais pas. Ou, tu sais, y aurait-tu quelque chose qu'il aurait pu faire pour désamorcer mieux? Hein?
Mais je pense que non. Mais je pense que non. C'est-à-dire, compte tenu, se retrouver devant une horde d'étudiants qui t'empêche de parler, puis qui t'envoie des slogans, c'est-à-dire, toi, tu cherches leur regard pour parler à un individu, puis ce que tu trouves, c'est des militants, en fait. C'est pas des individus, c'est des gens qui sont fondus dans une collectivité, puis qui se mettent à réciter un mantra.
Ouais.
T'as un mantra qui est contre toi, tu sais. Il faut que tu t'en ailles, il faut que t'es un raciste, t'es un. À le réciter en collectivité, tu sais, dans une espèce de chant collectif. Fait que donc, t'arrives pas à accrocher quelqu'un
pour
s'adresser à la personne.
Ouais.
Fait que comme, tu peux pas désamorcer ça. Quand t'es l'objet de l'opprobre, tu peux pas, toi, dire oh, attendez, à moins de trouver de l'autre côté. Quelqu'un qui peut. Qui a une autorité auprès des autres et qui est prêt à t'entendre. À défaut de ça, t'as pas moyen. Comment t'es. Tu sais, en fait, ce qu'il aurait pu faire, c'est juste de pas écrire ça, faire semblant de rien. Pas écrire son courriel, faire semblant de rien, puis continuer sa petite affaire, tu sais. C'est éviter que ça se passe en n'exprimant pas son désaccord. Il était pas capable.
Ouais. Parce que, tu sais, j'avais dans l'idée aussi, mais peut-être à tort, puis encore là, tu sais, on a l'avantage d'avoir ce type-là qui... Jonathan Boyd qui a écrit en... Tu sais, on peut avoir tous les détails puis la chronologie, là, c'est pas juste un court documentaire sur l'idée, mais que, dans un sens, il a comme payé du fait d'avoir foi en la capacité aux gens de dialoguer. Parce qu'il aurait pu
c'est
dire...
Ça.
Tu sais, il aurait pu dire... on m'attaque injustement, je contre-attaque injustement.
Mm-hmm.
Puis là, à un moment donné, ça saisit les autres parce que tu leur renvoies un truc qui n'a pas de fondement nécessairement, mais tes attaques sur quelque chose, puis là, OK, il y a comme une balance de pouvoir, on a comme deux...
C'est-à-dire que c'est limite en arriver au point, mais avec des mots. C'est-à-dire, c'est comme,
ouais.
Il faut que tu te battes pour montrer ta force, il faut que tu fasses l'ours. C'est ça, comme tu te mets sur tes deux pattes, là, puis que tu essayes de te montrer plus grand qu'eux.
Mais tu sais, je dis ça parce que, puis pas que c'est facile, ou pas qu'il aurait dû, ou pas qu'il y a la personnalité pour, ou pas que c'est quelque chose qu'il faut nécessairement valoriser, mais pour en revenir encore à Trump, tu sais, il y a des politiciens, dont lui, qui sont plus teflon par rapport à des attaques. Parce
oui.
que ils vont pas vouloir se justifier logiquement, parce que comme tu dis, c'est pas sur ce plan-là, parce qu'on leur dit pas, regarde, t'as eu trois arguments, puis ton deuxième, on est en désaccord, voici pourquoi, là, ben, on va en discuter. C'est pas ça, tu sais. Fait que de répondre à ça, à une attaque militante, ça tombe dans l'eau, tu sais, ça pas de... Mais de répondre avec une attaque militante dans l'autre sens, ou de balayer du regard, pas du regard, mais du revers de la main. Tu sais, il y a des façons, des fois, que les gens ont, puis c'est pas toujours les meilleures personnes, mais de pas se laisser atteindre par ça, tu sais. Lui, on peut penser que c'est vraiment, en plus, ça l'a.
Ben, moi, je trouve que ça fait peur, ce que tu dis, en fait. C'est terrifiant, en fait. C'est-à-dire que, dans le fond, l'issue possible à une attaque inquisitrice, non, une attaque non justifiée contre toi, mais qui était comme un qui instaure un rapport de force à cause du nombre et du type d'insultes et de proférations, de choses mensongères qu'on dit à ton sujet. La réponse à ça, étant donné que le dialogue est impossible, c'est une contre-attaque. C'est le pouvoir. En fait, c'est une lutte de pouvoir. Ce qu'on dit, c'est qu'on a dégénéré. C'est le plus fort qui va l'emporter.
Mm.
Est-ce que lui, Brett Weinstein, aurait pu faire quelque chose qui aurait donné le sentiment qu'il était plus fort, c'est-à-dire que les autres avaient quelque chose à perdre, à continuer.
Ouais.
Peut-être que oui, peut-être que non. Mais ce que ça veut dire, c'est que, quand on dit « si tu veux la paix, prépare la guerre », ce que ça veut dire, c'est que le dialogue, en fait, l'échange, l'intersubjectivité, tu sais, le fait de se rencontrer au milieu...
Ouais, puis de comprendre le point de vue de l'autre, puis de préciser sa pensée...
Tout ça, ce n'est possible que si on a réglé avant la question du rapport de force.
Ouais.
C'est ça que je trouve que ça fait peur.
Mais tu trouves pas que Twitter amène ça un peu, des fois? Parce que c'est dur de dialoguer par Twitter. Là, t'as quelqu'un qui rapporte un propos hors contexte en disant, tu sais, ça, c'est injurieux, c'est de la propagande, c'est haineux. Puis là, ben, en l'espace de quelques heures, t'as 20 000 likes.
Et de retweet.
Et de retweet.
Et là, ça devient un phénomène et ouais. It's trending on Twitter.
C'est ça. Puis là, comment tu... Si ta réponse, c'est un argument... C'est difficile de ne pas répondre en termes de voir ça en termes de balance, de pouvoir aussi. Là. C'est pas que c'est une belle avenue, mais... Mais je dis ça parce que, vraisemblablement, de ce que j'en comprends, lui, il a pas du tout réagi de cette façon-là. T'sais. Il s'est pas dit « c'est une attaque ». Il y a une balance de pouvoir que je suis en train de perdre. Je dois me trouver un allié puissant qui va poser un drapeau puis qui va shaker un peu les convictions, oh, qui va calmer le jeu. Tu sais. Il a continué à dire non, écoutez, il se rendait à une place, là, un rassemblement, puis on le voit dans le coin, puis il lève sa main pour parler.
Et puis... là, tout le monde se met à le huer, oui, puis va-t'en, puis qu'est-ce que tu fais ici, oui, puis ça. Dégage. Puis...
Oui, c'est terrible.
Ah, c'est épouvantable. Du jour au lendemain. Mais en fait, ce que lui a fait, c'est ça, c'est comme là, tu vois, c'est comme à court de ressources que lui a fait, c'est d'accorder une entrevue à Tucker Carlson sur Fox News,
ouais.
Qui est comme la télévision satanique aux yeux des gens de gauche, là, tu sais, c'est le poste de télé des méchants, tu sais.
Fox News.
Fait que, et Tucker Carlson en particulier,
en plus, il est emblématique, t'sais.
C'est ça. Et il va lui accorder une entrevue à lui. Tucker Carlson, qui est juste trop content de le recevoir parce que ça rentre exactement dans sa lecture à lui des choses.
Ben oui.
La gauche est devenue folle.
Plus moyen de rien dire.
Il n'y a plus moyen de rien dire. Ils veulent détruire la société. Ils viennent vous chercher. Ils vous menacent, blablabla. Donc, il est trop content. Mais en fait, Brett Weinstein, qui est l'interviewé le plus improbable d'un Tucker Carlson,
oui.
N'a pas trouvé d'autre endroit où aller solliciter du tiers.
Oui.
Que des journalistes, que la télé vienne voir ce qui se passe, qu'il y ait du tiers, qu'il y a quelque chose qui se passe là, qui est en train de tourner terriblement mal, ça prend du tiers pour décoller les gens d'une bataille de ruelles. C'est justement son refus de dire, ben moi, son refus ou son incapacité, il n'était pas dans une position, il n'était pas soutenu par son administration, il n'était pas soutenu par les autres profs.
Tout le monde l'a laissé tomber.
Tout le monde l'a laissé tomber. Puis là, que tu les vois défiler les autres profs dans ces vidéos-là de Benjamin Boyce, c'était là, mon Dieu, c'est comme terrible ce que vous vivez. C'est comme, on a l'impression, de, c'est terrible, des actes de contrition à répétition, puis... T'es là, mais en fait, est-ce que vous êtes une université où on enseigne des matières ou qu'est-ce qui se passe, là, tu sais?
Ouais.
Puis là, lui, il essaye de maintenir sa position. Tout le monde le laisse tomber. Et donc, il n'y en a pas de rapport de force possible. Tu vas dire quoi? Hey, je suis un prof, respectez-moi.
D'autant plus qu'en 48 heures, on lui dit de ne plus aller à l'université en vélo comme d'habitude parce qu'il va se faire agresser puis la police ne peut pas intervenir. Je veux dire, ça va vite, là.
Juste, c'est-tu l'année d'avant, parce qu'il y a aussi un contexte, hein? Il y a l'élection de Donald Trump, puis il y a eu le phénomène Milo Yiannopoulos, là, ouais. Puis les émeutes à l'Université de Berkeley, juste avant ça, tu sais, il y a comme une escalade. Le truc qui est étonnant, c'est que ça se passe dans des universités, ça se passe pas dans encore dans les universités... évangélique du fond de l'Utah, tu sais, ça se passe dans des universités progressistes,
ouais.
ouvertes, dans des grandes villes, où les gens circulent puis se croisent depuis longtemps, qui sont des villes démocrates, qui sont des villes ouvertes. C'est là que ça se passe.
Oui.
C'est ça aussi qui
est
comme...
C'est
ça
l'ironie, dans un sens.
Oui, hein? Puis qu'on attaque des gens qui sont des gens... Et puis que là, t'as des gens de gauche, donc ça ramène aux Hoax Papers puis à Benjamin Boyce.
Oui.
Parce que je sais pas si c'est par lui que je suis tombée là-dessus, là, les Hoax Papers... ou pas, mais cette semaine, il vient de poster une entrevue avec James Lindsay, qui est très actif, lui, il est très, très actif. Lui, il est en train d'être... il a l'air de faire ça à temps plein, il est tout le temps en train de tweeter là-dessus, sur les Critical Race Theory. Lui, et puis ils se sont rencontrés comme ça, sur Internet, à la faveur de cette mouvance-là aux États-Unis. C'est des gens de gauche, ça.
Oui, oui.
Qui sont en train d'envisager, de ce que je vois, voter pour Donald Trump. C'est le backlash, c'est ça?
Oui.
C'est ça qui est terrifiant, en fait. C'est que tu as une espèce d'excroissance de la gauche qui se présente comme défenseur nec plus ultra, là, défenseur suprême des vrais opprimés de notre société, contre... tout le monde qui est des oppresseurs, consciemment ou inconsciemment, puis dans le moindre niflement, éternuement.
Mais puis aussi, avec l'idée que non seulement c'est des nouveaux défenseurs, parce que ça pourrait déjà être une chose, puis qu'on pourrait même dire, tu sais, c'est propre à des fois à chaque nouvelle génération d'avoir des nouvelles causes qui défendent, puis pour laquelle ils sont prêts à aller au front. Mais ce qui marque plus, je trouve, maintenant, c'est le nouveau moyen, la nouvelle possibilité avec les médias sociaux. De mettre une pression telle que ce qui avant pouvait s'extrapoler ou se déployer plutôt en quelques années peut vraiment se faire en temps condensé. Puis lui, il a vécu en l'espace de 2 semaines, il finit, sa carrière est finie, il perd sa job, il faut qu'il déménage, il ne peut plus se promener. Puis là, tu as une espèce de dichotomie où d'un côté, puis on le voit au Québec, tu as des procès qui n'en finissent plus. Tu sais que c'est des années et des années, tellement que des fois, on se doute bien que l'arrêt Jordan va arriver, puis qu'ils vont dire, là, ça fait 5 ans, ça fait 4 ans.
Oui, c'est ça, l'arrêt, oui, c'est
donné,
ça.
La personne, on ne peut pas la laisser comme ça, là. Fait qu'on arrête, tu sais, ça fait que c'est trop long. Versus des gens qui, parfois, ont leur cas réglé en 72 heures sur Twitter.
Pour toujours!
Pour toujours!